Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non de la nature, non de la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais parce qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui à propos duquel j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Merci Anel pour cette lecture. Je vous propose de commencer en priant. Père Céleste, merci pour ta parole. Je te demande qu'elle puisse nous interpeller ce midi. Merci d'avoir pris soin de communiquer à notre attention et qu'on puisse être à l'écoute de ce que tu as à dire. On te demande ça au nom de Jésus. Amen. C'est à juste titre que ce texte est souvent décrit comme le prologue de l'évangile de Jean. Tous les thèmes principaux et les développements secondaires y sont en effet introduits. Pensez à ce morceau qu'on trouve au début d'une symphonie, qu'on appelle une ouverture. Le thème musical et les variations y sont entremêlés. Y figurent les quelques séquences essentielles et les notes additionnelles. Et à partir de là, la tonalité est donnée et le spectacle peut commencer. Si l'apôtre Jean ambitionne bien d'écrire une ouverture à ce prologue, une ouverture à cette symphonie qu'est son évangile, on ne sera pas surpris que ces 18 premiers versets sont très denses et curieusement agencés. En l'espace de quelques versets, on passe de considérations métaphysiques à des considérations très terrestres. Des personnages qui sont introduits, qui disparaissent, puis qui réapparaissent. C'est le cas, par exemple, de Jean-Baptiste, qu'on voit au verset 6, et qui réapparaît ensuite au verset 15. Et encore, on a aussi des appellations diverses, qui sont offertes par Jean pour une seule et même personne. On a la lumière, la parole, on a le Fils et Jésus-Christ au verset 17. Ces complexités-là et d'autres complexités font que ce prologue suscite une vraie curiosité. Mais il ne faut pas que ce texte nous intimide. Je vous propose justement d'exploiter la structure peut-être non linéaire de ce prologue et d'en rendre compte d'une manière concentrique. Ce qui nous va nous conduire à aborder d'abord les versets 1 à 3, ainsi que le verset 18. Verset 1 à 3 et verset 18, Jésus-Christ est Dieu qui se révèle. C'est le premier point que vous trouverez sur vos feuillets. Jésus-Christ est Dieu qui se révèle. D'emblée, on est appelé à prendre un recul immense, recul dans le temps et dans l'espace, pour contempler, si c'était possible, l'éternité. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, imaginez l'écran initial d'un Star Wars, Imaginez les mots de ces trois premiers versets qui défileraient lentement, sur fond étoilé. Au commencement, la parole existait déjà. Mais au travers des mots, qu'est-ce qu'on est appelé à se représenter ? Une personne éternelle, un vis-à-vis de Dieu, une personne divine, la parole. On a à peine le temps de reprendre notre souffle que le verset 3 enchaîne. Cette parole est l'agent de la création. Cette parole est l'agent de la création. Et en effet, dans le texte de la Genèse, c'est bien par la parole que toutes choses ont été créées. Qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Et ainsi de suite, jusqu'au sixième jour. Ce prologue s'ouvre avec une éternité, au verset 1 à 3, dans laquelle la parole est avec Dieu, c'est-à-dire tournée vers Dieu. Ces trois premiers versets utilisent l'imparfait pour exprimer un état continu dans le passé. Ça, c'est pour le début. Et pour la fin, le prologue va terminer avec une autre éternité, dans laquelle cette fois-ci le Fils est avec le Père. Est-ce que vous avez remarqué ça au verset 18 ? Le présent est utilisé. Dieu, le Fils unique, est dans l'intimité du Père. Du début à la fin de ce prologue, on est donc passé d'une éternité à l'autre éternité. Entre-temps, la parole se sera manifestée, mais pour un temps seulement. Car Jésus-Christ n'est plus ici, en effet. Il est retourné à la gloire qui était la sienne avant que le monde ne fût. D'une éternité à l'autre éternité. Est-ce que toutes choses sont pour autant revenues à leur point de départ ? Relisons le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous voyez, Dieu est désormais connu comme il est vraiment, et pas autrement. On verra dans quelques minutes la différence que ça fait pour vous et moi dans notre relation à Dieu. La venue de Jésus aura fait connaître Dieu, c'est ce qui nous importe pour le moment. Notez qu'il faut attendre le verset 17 pour que la parole puisse être identifiée à Jésus-Christ, qu'on puisse faire cette connexion de façon formelle. La parole, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que Jean commencerait son prologue en attendant autant de versets avant d'être plus explicite ? Les considérations métaphysiques par lesquelles il commence pourraient nous perdre. Ce n'est pas forcément notre truc. Eh bien, peut-être qu'avant de s'approcher d'un Jésus avec lequel on serait plus ou moins familier, il nous faut passer un petit peu de temps avec ces considérations métaphysiques. Il faut être très au clair sur qui Jésus est vraiment. Il est une personne éternelle qui est Dieu au même titre que Dieu. Et du coup, le début et la fin de ce prologue vont nous donner de la perspective. La perspective à mesure qu'on lit le reste de l'évangile de Jean. Quitte à écorner des idées préconçues qu'on aurait peut-être sur Jésus. Je vous le demande, est-ce que cette description-là de la parole, au verset 1 à 3, est-ce qu'elle correspond à ma conception de Jésus-Christ ? Si mon Christ est moins que Dieu d'une éternité à l'autre éternité, s'il est moins que l'agent unique de la création, s'il est moins que la révélation unique de Dieu, eh bien l'apôtre Jean va vouloir m'interpeller dans le reste de l'évangile. Car selon lui, si tu vois Jésus-Christ, tu as vu Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui se révèle. Si ce verset 18 est fiable, finis les complaintes que Dieu est trop loin ou trop vague. Non, si l'éternel Dieu s'est révélé dans son Fils unique, on ne peut plus buter en touche. Certains me diront, si Jésus n'est plus ici, en quoi est-il plus appréhendable que le Dieu invisible ? C'est que notre attention va devoir se porter sur une période historique en particulier. Une petite fenêtre historique, mais une fenêtre ouverte en grand. Est-ce que vous êtes jamais demandé dans quelle époque vous auriez aimé vivre ? Quant à moi, c'est certainement l'époque napoléonienne qui m'attire le plus. En particulier pour ses costumes. Considérez seulement les belles vestes d'uniforme et leur grande variété sous l'Empire. Quant à vous, c'est peut-être l'atmosphère, la fièvre d'une époque en particulier qui aura suscité votre curiosité. Peut-être l'importance historique de telle ou telle période avec le recul. Quoi qu'il en soit, si le premier siècle de notre ère n'est pas un siècle qui nous intéresse plus que ça, il va falloir que ça change. Car si la parole s'est alors incarnée, pour un temps et pour un temps seulement, on n'a pas le luxe du choix. Ce moment historique, au premier siècle de notre ère, c'est l'objet de notre deuxième point, à partir des versets 4 à 9 et 14 à 17. La venue de Dieu dans le monde est attestée. La venue de Dieu dans le monde est attestée. Il est fait mention de cette venue au verset 9 ainsi qu'au verset 14. Que Dieu veuille visiter sa création dans le cours de l'histoire, c'est pas anodin, c'est même extraordinaire. On n'a pas le droit de prendre cette démarche pour acquise. Voyez-vous, Dieu n'est pas désespéré à tel point qu'il aurait besoin de se trouver un entourage. Il n'est pas prêt à toutes les compromissions ou toutes les bassesses terrestres. Non, Dieu le Père et Dieu le Fils sont dans une relation éternelle et parfaite. Ils ne sont pas en manque. Dieu est libre, Dieu n'a besoin ni de vous ni de moi. Alors que Dieu daigne descendre ici-bas, en notre humanité, ça soulève une question fondamentale. À quoi bon ? On y reviendra. En tout état de cause, si cette venue de Dieu sur terre est avérée, c'est un événement. On utilise le mot événement à tort et à travers. Étymologiquement, on devrait peut-être le réserver pour des moments qui font rupture, des moments qui changent tout. Et dans la venue de Dieu sur terre, on a un événement. L'action de Dieu en Jésus-Christ, une action historique. Mais cet événement, on n'en prendra connaissance que si des témoins en rendent compte. Sinon, ça passerait inaperçu. Je peux descendre dans ma rue et courir le 100 mètres en 9 secondes et 50 centièmes. Mais s'il n'y a personne pour attester que je viens de battre le record du monde, il ne s'est rien passé. Je peux traverser la Manche à la nage en moins de 7 heures. Encore une fois, si je n'ai pas attiré l'attention des médias sur ce que je m'apprête à faire, ça passera inaperçu. Ce qui nous pose un problème, parce que qui pourrait rendre compte d'un événement aussi extraordinaire que la venue de Dieu sur terre ? Verset 6, il y eut un homme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Comment quelqu'un à l'intérieur du cosmos pourrait-il rendre compte du déplacement de quelqu'un à l'extérieur du cosmos, d'une personne éternelle qui viendrait ici-bas ? Pour pouvoir rendre compte d'un tel voyage, il faudrait quelqu'un qui puisse certifier du point de départ. En un sens, seul Dieu peut vraiment rendre témoignage à Dieu. Mais Dieu entend néanmoins se faire connaître à des gens comme vous et moi. Et vous et moi, de façon routinière, nous accueillons le témoignage des uns et des autres. Nous recevons le témoignage d'autres êtres humains. Et par égard pour nous, Dieu aura condescendu à nous donner des témoins, à mettre en place des hommes dont on écoutera la parole. Et le témoignage d'autres personnes, ça compte pour quelque chose pour nous. Pensez à notre système pénal qui donne beaucoup de poids aux dépositions de témoins. Et à juste titre. Le premier témoin invoqué dans ce prologue, c'est Jean-Baptiste, verset 6. Et dans le contexte des versets 4 à 9, on voit que son témoignage anticipe la venue radieuse de Dieu sur terre. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et à sa suite, un autre homme, l'apôtre Jean, cette fois-ci, s'invitera dans ce prologue. Est-ce que vous avez remarqué ça au verset 14 ou au verset 16? Verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire ». Ce pronom personnel « nous » renvoie aux apôtres dont l'apôtre Jean fait partie. Ce pronom permet de qualifier cet évangile que vous avez dans les mains de témoignage oculaire. Et ce que dit l'apôtre Jean, au verset 14 à 17, c'est qu'il confirme la venue radieuse de Dieu ici-bas. Et ce n'est pas n'importe quelle venue improvisée qui serait ouverte à toutes les interprétations. L'apôtre Jean prétend avoir vu l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament. Les deux traits qu'il repère, grâce et vérité, qu'on trouve au verset 14 et 17, sont dans la droite ligne de l'Ancien Testament. Autrement dit, l'apôtre Jean va interpréter un événement qui manifeste une grâce et une vérité caractéristiques. En effet, dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, Dieu se révélait déjà ainsi. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. L'apôtre Jean prétend avoir vu l'Éternel. L'Éternel Dieu était parmi nous. Est-ce que maintenant vous avez remarqué une dominante dans le témoignage, autant de Jean-Baptiste que de Jean? Le spectacle aura été éblouissant. Au verset 4 à 9, le mot « lumière » est répété pas moins de 7 fois. Imaginez un instant l'intensité du soleil que vous voudriez regarder en pleine face. Quant au verset 14 à 17, il renvoie à la gloire à l'état pur. Ce qui revient à dire un peu la même chose, car vous savez que lumière et gloire sont liées. Par exemple, pour décrire ces jeux de lumière dans les nuages, on parle de gloire au pluriel. Gloire et lumière sont liées. Et l'avènement du Christ aura été une illumination glorieuse. Comme quoi le siècle des Lumières, c'est peut-être le premier siècle de notre ère. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous seriez attendu pour décrire le Jésus historique? Illumination glorieuse. Et s'il était grand temps de nous défaire des idées préconçues qu'on a peut-être sur Jésus? Dans cet évangile de Jean, préparons-nous à ce que la gloire de Dieu nous soit donnée à voir. Préparons-nous à ce qu'elle soit décrite du début à la fin du ministère de Jésus, de Cana à Golgotha. À vous de lire la suite de cet évangile et à vous d'en juger. Quant à l'apôtre Jean, lui nous dit d'emblée qu'il a vu la gloire de Dieu face à face. Et ce n'est pas une expérience banale, en particulier pour un juif. Quand l'Éternel se manifeste ainsi à des hommes, face à face, à quelles conséquences doit-on s'attendre? Il y a de quoi tomber à terre et même ne jamais se relever. Je vous propose d'ouvrir ce passage dans le livre de l'Exode, page 64, Exode 33. Page 64, Exode 33, versets 18 à 23. Verset 18. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Revenons-en à Jean. Par contraste, lui a vu Dieu face à face et ça n'a pas résulté en une mort subite. Jean fait donc bien d'être enthousiaste. Personne n'a jamais vu Dieu, mais lui l'a vu face à face. Et qui puisse survivre à cette expérience pour nous en témoigner, ça témoigne qu'une nouvelle ère s'est ouverte dans la relation à Dieu. C'est un tournant. Dieu s'est approché. Et pourtant, est-ce que ça nous fait chaud ou froid? Est-ce que ça nous emballe? Beaucoup de nos contemporains n'en ont que faire de ce moment historique. Quant à nous, faisons bien attention de ne pas passer à côté de la seule vraie gloire. On se rappelle tous cette année glorieuse, 1998, où l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde. Et si on pouvait se frotter à une gloire qui ferait de cette gloire de 1998 une gloire passée, une gloire pâle, presque un fait divers? L'apôtre Jean témoigne d'une telle gloire, une gloire de Fils unique. Est-ce que nous sommes prêts à nous frotter au Christ? On a envie de penser qu'on serait naturellement prêt à accueillir ce Christ glorieux, qu'on serait prêt à cette rencontre. Mais le choc que notre passage nous réserve au verset 10 et 11, c'est le rejet. Le monde a choisi de rejeter par deux fois, verset 10 et verset 11, rejet. n'est pas une surprise pour Dieu. Dès le verset 5, il était fait mention du fait que la parole a toujours été rejetée de tout temps. Néanmoins, au 1er siècle, on a un événement extraordinaire et un vilain accueil. Ceci dit, l'accueil est en fait contrasté. Est-ce que vous avez remarqué ? Quelques-uns auront reçu ce Jésus, hier comme aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un se dégage ainsi de la réaction populaire ? C'est jamais évident de sortir du lot, d'aller à contre-courant, surtout pour accueillir Christ. Qu'est-ce qu'il faudrait pour un accueil favorable de ma part également ? On vient là à notre troisième point, à partir des versets 10 à 13. Donc, premièrement, d'une éternité à l'autre, Jésus-Christ est Dieu qui se révèle. Deuxièmement, sa venue radieuse est attestée dans l'histoire. Et troisièmement, son dessein souverain, c'est d'effectuer l'adoption divine de quelques-uns. Voyez-vous, dans la relation à Dieu, nous étions tous très mal partis. D'abord, c'est Dieu qui est descendu jusqu'à nous, et pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes montés jusqu'à Dieu. Il a fallu les grands moyens de la part de Dieu, des moyens qui nous dépassent. Et Dieu sait ce qu'il fait, l'artillerie n'est pas trop lourde. Mais ensuite, même une fois que Christ est à notre portée, ici-bas, on n'est pas tout à fait libre de naître dans la famille de Dieu, de choisir la famille de Dieu. Là encore, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu à l'œuvre. Est-ce que vous avez remarqué ça au verset 13, à propos de ceux qui croiront en Jésus ? Ils ont le droit d'être enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Et cette image de la naissance est bien à propos. Lequel d'entre nous a choisi de naître, ici ou là ? En l'espèce, on ne contrôle rien. Être né de Dieu ne dépend pas de nous. C'est quelque chose qui nous arrive. Ce n'est pas une naissance du fait de la nature. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on a le droit de s'approcher de Dieu comme un fils s'approcherait de son père. Ce n'est pas non plus une naissance par une volonté humaine. Ce ne sont pas mes bonnes intentions qui me donnent le droit de m'approcher de Dieu comme un fils s'approcherait de son père. Et ce n'est pas non plus une naissance de la volonté d'un mari, c'est-à-dire l'intercession d'une autre personne qui serait peut-être en meilleur terme avec Dieu que nous, n'y changera rien. Personne n'est naturellement enfant de Dieu. Créature, oui, on l'est tous, mais dans notre état naturel, Dieu n'est pas notre père. On a tous ces images de réfugiés en tête, apatrides, enfants et adultes, certains d'entre eux orphelins. Hors de Jésus-Christ, c'est ce que nous étions par rapport à Dieu. Que ces images-là nous donnent d'apprécier la perspective d'une adoption dans la famille de Dieu. Quel privilège ! Et cette adoption, c'est Dieu seul qui l'effectue. Par nous-mêmes, nous sommes bien incapables de nous conduire jusqu'à Dieu. Pour les chrétiens parmi nous, voilà de quoi nous garder humbles et reconnaissants. Par notre appartenance à ce monde qui rejette Dieu, nous aussi étions mal partis. Mais Dieu nous aura conduits à lui envers et contre tout. Quel privilège que d'être appelé enfant de Dieu. Quant à ceux d'entre nous qui ne sont pas encore chrétiens, oui, la souveraineté de Dieu en matière de foi, dont il est question au verset 13, c'est peut-être quelque chose qui va vous vexer. Que vous soyez plutôt près ou plutôt loin du christianisme, que vous soyez plutôt bien disposé par rapport à Jésus-Christ, par vous-même, vous aussi, êtes incapable de vous prendre par la main et de vous conduire à Dieu. Il faut que Dieu intervienne. Celui qui se dit « Jésus, j'y croirai quand je serai vieux », il se met le doigt dans l'œil. Alors oui, il y a de quoi désespérer, mais ce n'est pas une mauvaise chose de ressentir ce désespoir. Bien au contraire. Si vous n'êtes pas encore chrétien, remettez-vous-en à Dieu. Demandez-lui qu'il vous permette d'entrer dans sa famille par Jésus-Christ. Et à partir de là, la forme de cette adhésion à Christ va être très simple. Elle est indiquée au verset 12. Avec deux expressions synonymes. Accepter Jésus, on voit que c'est croire en son nom. En pratique, ça voudra dire recevoir Jésus-Christ pour qui il est, comme il est décrit dans ce prologue. Ça voudrait dire fléchir le genou devant sa gloire, une gloire de Fils unique venu du Père. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu aura permis une telle adhésion chez certains, envers et contre tous. Si ce n'est pas déjà le cas pour vous, et pourquoi pas vous ? Je vous propose de conclure cet exposé par une prière avant de nous donner la parole autour de table. Prions. Éternel Dieu, merci de ce que tu t'es fait connaître en grâce et en vérité, une fois pour toutes. Donne-nous de bien apprécier ce moment historique. Donne-nous en particulier de prêter attention au témoignage oculaire de l'apôtre Jean. Veuille susciter en nous la foi en Jésus, veuille la raviver, afin que nous puissions de droit entrer dans cette relation de famille à laquelle toi seul peux nous donner ce droit. Au nom de Jésus. Amen.